Oui, continuez. Philippe Zollers. Bon, et vous en savez comme ça beaucoup. Très long.
Mozart, le catholicisme, ce d'Aponté bizarre, ce petit sac explosif de civilisation. Voilà, c'est ça le
sujet. Mais
pour
vous, d'Aponté est résolument vénitien. Définitivement, oh ben oui. Définitivement vénitien.
Oh oui, oh oui, mm-hmm. bien sûr, c'est l'incarnation de Venise.
Il y a d'autres personnages que l'on sans pouvoir... présence morbide.
Non, c'est clair.
Puisque finalement, Venise, c'est pas tellement ça non
c'est,
plus.
C'est clair dans sa vie. On voit comment il ne se décourage jamais. Nous allons voir ses rapports avec les femmes, qui sont très étranges. Il est donc abbé.
Oui.
Il se débrouille. C'est le Vénitien type comme Casanova. Casanova est plus âgé.
C'est pas son copain.
Oui, puis ils sont jaloux. D'Aponté a écrit ses mémoires à partir du moment où Casanova a déjà écrit les siennes. Donc il y a un problème extrêmement important qui est de savoir qui va gagner la mémoire historique. Ce qui frappe chez ces deux personnages, je crois qu'ils sont vénitiens par là même, hein, par l'étincelle et par l'énergie qui les anime. Surtout, c'est qu'ils ne se découragent jamais. Ils vont à l'aventure, ce sont des villes extraordinairement aventureuses. Ils sont tellement animés de la certitude d'avoir vu ce qu'il y avait de plus élevé, de plus beau, de plus libre, etc. Bon, ça doit forcément se retrouver un jour. C'est comme les gens qui ont eu une enfance particulièrement heureuse. Ça arrive parfois, c'est très rare. Mais enfin, on ne sait quel... Ou comme dit Goethe, les enfants qui ont été aimés par leur mère. On ne sait pas pourquoi, ils ne se découragent jamais, ils emportent le trésor avec eux.
Un peu, d'Aponté, personnage optimiste, personnage qui ne se décroît jamais, entreprenant, volontariste, actif,
chanceux et malchanceux,
se trouve bien dans une ville qui a été superbe, qui l'est encore naturellement, mais qui n'est plus tout à fait de la même façon.
Mais où la vie est très agréable, très romanesque surtout.
Très romanesque.
Et c'est là que nous allons déjà sur la fonction du théâtre. Venise est un théâtre. C'est un théâtre dans le théâtre. Et qui est né à Venise, et dans sa vie courante, quotidienne, un acteur de théâtre. Il faut lire les mémoires de Casanova, les masques, mais pas le carnaval, hein, kitsch touristique. Le fait de se sentir, quand on est dedans, comme si on était dehors, et quand on est dehors, comme si on était dedans, parce qu'il y a les canaux, il y a cette circulation, on a l'impression que les places sont des salons, que certaines petites ruelles sont des couloirs de chambre.
Sont des entrées sur scène.
Tout ceci, entrée, sortie, dissimulation, chacun vivant pour soi, ça a été remarqué par tous les voyageurs, Montesquieu, chacun vivant pour soi, sur un pied quasiment d'égalité, il suffit d'avoir du linge propre. Venise est une ville où il y a, je ne sais plus le chiffre, mais enfin le plus grand nombre de prostituées qu'il y ait en Europe. C'est la ville des jeux. hein, notamment le Ridotto, le fameux Ridotto que vous retrouvez dans les peintures de Guardi, par exemple, dans laquelle, dit Da Ponte, les nobles riches avaient le privilège exclusif de tenir la banque avec leur propre argent et les nobles pauvres avec celui d'autrui, le plus souvent celui des descendants d'Abraham. C'est étonnant
de dire ça.
C'est-à-dire lui-même, oui, en somme, hein, pour autant qu'il le sache. Il y a le jeu et les femmes, quoi. Mmh. Alors, voilà Venise, mmh. C'est-à-dire décadence du point de vue de l'accumulation protestante, sûrement.
Non, décadence, ça voudrait dire
mais,
simplement
luxe, que... luxe et agitation et petits romans qui se passent tout le temps, oui. Oui. D'ailleurs, ça lui arrive tout de suite, les petits romans à Venise.
Le mythe de la décadence vénitienne est lié très directement, non pas d'ailleurs tellement au fait que dans les siècles
c'est
précédents...
C'est l'idéologie capitaliste du 19e
siècle. Oui, non, justement... Alors,
puritaine,
c'est pas tellement le fait que dans les temps précédents il y a eu plus de peintres, plus d'écrivains, plus de musiciens de grande valeur qu'à l'époque de Da Ponte. C'est le fait que Venise ne va pas participer au grand mouvement rationaliste de progrès et d'émancipation des Lumières.
Ne vont pas participer à ce qui arrive, non pas avec la Révolution française, mais avec la Terreur et avec son système, avec le système impérial qui en sort après, le jacobinisme poussé à bout. Et puis Napoléon, son exécuteur testamentaire, dans les deux sens, son exécuteur dans l'histoire et son exécuteur testamentaire, c'est-à-dire ça, assumant son message. Ce n'est pas le message de la Révolution, ce n'est pas le message des Lumières, c'est autre chose. C'était le commencement d'une mise de la planète en coupe de rentabilisation et d'accumulation. Pour cela, il faut lire le très bon livre de Sartre sur Flaubert pour savoir ce qu'est devenu la haine de soi, par exemple. Au XIXe siècle, sous la pression économique.
Et dans la tradition politique, sera le jacobinisme.
Je pense que enfin, ça,
une,
c'est
une,
une des. Hein, et le, et
ou l'impérialisme.
Oui, tout cela fondé, il y a eu des études très savantes là-dessus, fondé sur l'idéologie protestante. Enfin, c'est connu, le puritanisme, l'économie, la honte et la haine de soi, la vie collectivisée a priori, transparente et collectivisée. Et tout cela, c'est-à-dire c'est le contraire du théâtre. La haine du théâtre, d'ailleurs, anime beaucoup les terroristes français après la Révolution, enfin pendant la Terreur.
Thank you.
Alors vous parliez un peu de Renaissance de Venise ces dernières décennies. Est-ce que ce serait lié aussi à un affaiblissement de cet idéal jacobin, répressif, centralisé ?
Oui, voyez-vous, comme par hasard. Comme par hasard. C'est-à-dire que Venise semble absolument condamnée à la fin du XIXe siècle.
Philippe Solers.
Tout le monde mise sur sa mort. C'est même l'emblème de la mort. Voilà. La mort est là. Et puis, alors donc, elle a choisi le mauvais chemin en s'absentant de l'histoire. Et brusquement, il en va autrement.
Alors, Da Ponte, qui, lui, aurait éventuellement une sorte de désir, même peut-être un peu informulé, de lumière, dont il voit peut-être des menaces se porter sur l'endroit où il est, va partir de Venise pour aller à Vienne, qui, comme chacun sait, est une ville spécialement propice aux lumières. C'est un absolutisme, impérialisme, ville catholique.
Et bien, c'est là qu'on c'est quand même assez paradoxal. C'est là qu'on va découvrir, paradoxalement, que Joseph II est un homme des lumières. Comme par hasard, il va droit à l'exception qui confirme la règle, en quelque sorte. Parce que c'est ça que l'on apprend dans les mémoires de Da Ponte. C'est que Joseph II, il passe son temps, au fond, à le réhabiliter. Joseph II n'est autre que l'empereur qui choisit le sujet de Così fan tutte. Autrement dit, la scuola degli amanti, l'école des amants. Il n'a pas pu venir aux représentations. L'opéra a été un échec. Il est mort, Joseph II, quelque temps après. Mais ce que nous raconte Da Ponte de la cour de Joseph II, c'est le tyran éclairé, si vous voulez, au sens qui peut être celui des Lumières. C'est-à-dire, Voltaire peut-être aurait...
Se serait trouvé
peut-être beaucoup mieux avec Joseph II qu'avec son Frédéric de Prusse. C'est une tyrannie éclairée d'une façon assez vénitienne, puisque vous voyez que la République, tout le monde, Da Ponte en parle souvent, il dit, parce qu'il est obligé de mettre un petit peu des petits couplets contre le despotisme, il écrit ça vers 1830. Donc, alors, le pli de la propagande est pris, le pli de voir l'histoire entièrement selon la construction d'un monde qui fait table rase du passé et qui, pour lequel, au fond, l'Ancien Régime a toujours été plein de méchants oppresseurs. C'est-à-dire, enfin, tout ce que nous avons appris à l'école, tout ce qui est répandu jour et nuit dans la communication, faisant par là même le lit de l'amnésie, de l'oubli de l'histoire et donc de la publicité et de la marchandise telle qu'elle est répandue partout, donc tout ça marche très bien ensemble, eh bien, contrairement à cette vue extraordinairement simpliste, réductrice et malveillante, calomnieuse de l'histoire, de temps en temps, il glisse son petit couplet contre le despotisme, mais en même temps, il ne peut pas s'empêcher de dire que Venise était très douce, que le procès qu'il a eu, qu'on lui a fait à Venise contre son petit pamphlet, finalement, a été une rigolade, etc., etc. Je crois que ce qu'il a appris à Venise, il l'a appris aussi, ça c'est très important pour le devenir de notre histoire, il l'a appris aussi avec les femmes du lieu. Et alors les portraits qu'il fait des femmes, ce sont des portraits extrêmement lucides, c'est-à-dire pas du tout.
Sauf sur lui-même.
Alors, enfin, il a ce mot merveilleux, oui, il a ce mot, sauf sur lui-même, c'est-à-dire qu'il est obligé de dissimuler des choses. On sait qu'il a été obligé de quitter Venise parce qu'il avait engrossé une jeune femme et que ça a fait commencer à faire du bruit. Lui, il dit que c'est parce qu'on l'a accusé.
Engrossé, je veux dire, c'était un prêtre qui, le matin, allait dire sa messe à l'église qui est près du Rialto et qui, par ça, menait une vie de débauche avec une jeune femme qu'il avait plus ou moins amenée à se prostituer dans une maison de jeu qui ressemblait beaucoup à une maison de passe.
Est-ce que ça n'est pas scandaleux, dirait notre pasteur luthérien classique ou notre pasteur jacobin? Tout le monde trouverait ça horrible, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, dans cette horreur, qui est un comble de civilisation, d'après moi, on apprend donc à passer justement d'une scène à l'autre. C'est ça le théâtre. Et le théâtre des apparences, et on apprend à reconnaître comment ça se joue.
Venise apprend à Da Ponte à composer un bon livret d'opéra.
Voilà, c'est ma thèse. C'est-à-dire qu'il est spontanément apte à saisir ce qu'il y a de plus fort dans la théâtralité des choses à travers Venise. Le comble du hasard vertigineux, magique, c'est que Mozart, qui est peut-être avant toute chose, un fulgurant homme de théâtre, va trouver cet homme-là, qui est théâtre par lui-même, à travers cette ville qui est elle-même théâtre dans le théâtre, pour faire ces trois extravagants chefs-d'œuvre que sont Les Noces de Figaro, Don Juan et Così fan tutte. Voilà en gros le noyau de ce que je voudrais marteler.
Certo, tu vuole